Bonjour Nicolas Martin. Nous regardons aujourd'hui avec un peu d'émotion et de recueillement un long visage sculpté dans le grès. C'est le pharaon Amenophis IV, le célèbre Akhenaton. Et en le voyant, il est impossible de ne pas penser à cette femme brillante, à cette femme décidée qui a été à la tête des collections égyptiennes du Louvre et qui a disparu en 2011, Christiane Desroches-Noblecourt, parce que Akhenaton est ici grâce à elle. On se souvient qu'elle avait poussé un cri d'alarme pour alerter l'opinion internationale au moment des destructions qui allaient se produire, des temples de Nubie qui étaient menacés par les eaux du lac Nasser. C'était au moment de la construction du grand barrage d'Aswan. En 1960, son appel, relayé par Sarwat Okacha, ministre égyptien de la Culture, et par André Malraux, qui était le ministre français des Affaires culturelles, cet appel, auquel 50 pays ont répondu, a été fondateur. C'est la naissance de l'idée qui, aujourd'hui, semble aller de soi pour tout le monde, d'un patrimoine commun de l'humanité. Alors, grâce à Christiane Desroches-Noblecourt, il y a eu le déplacement des temples d'Abou Simbel, de Philae, des exploits qui ont fait rêver toute une génération et qui ont suscité une vague d'engouement sur laquelle on vit toujours pour l'art de l'Égypte ancienne. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement d'Anwar El Sadat a offert à la France, en signe de reconnaissance, ce fragment d'une statue du roi Amenophis IV. Et c'est pour ça que cette pièce si importante est aujourd'hui dans les collections françaises. Amenophis IV, qui disparut sans doute en 1337 avant Jésus-Christ, c'est l'homme de cette révolution religieuse qui a instauré le culte du soleil, le culte d'Aton. Il a prescrit qu'on n'adorera plus en Égypte que le disque solaire. Il a abandonné Amenophis, le nom qu'il tenait de son père, le nom qui veut dire Amon et satisfait, pour le nom d'Akhenaton, celui qui sert Aton. Et il a banni donc le souvenir d'Amon, et puis il a aussi mécontenté tout un puissant clergé qui vénérait Amon à Thèbes. À Karnak, un nouveau temple s'élève, d'où provient ce visage qui est à la fois étrange, c'est très frappant quand on lève les yeux vers lui, et identifiable tout de suite. On reconnaît Akhenaton, parce que cette révolution religieuse et politique, c'est aussi une mutation complète dans le domaine des arts et des canons esthétiques. Dans la nouvelle capitale d'Amarna, Akhenaton et sa femme Néfertiti, l'analyse ADN a révélé qu'il est le père de Toutankhamon, diffusent leurs portraits, des portraits peints, des portraits sculptés, des portraits en bas-relief. Le roi refuse d'être représenté de manière hiératique, il se montre sous son vrai visage. On voit des scènes qui sont déjà l'intimité de la vie d'une famille, il y a des caresses, des gestes de tendresse, des embrassades, et les œuvres de l'art amarnien sont faciles à reconnaître dans les salles du musée. Mais ici, regardez bien, le roi conserve toute sa majesté. C'est la preuve que cette révolution des représentations ne consistait pas à nier complètement les codes hérités des générations antérieures et des règnes précédents. Il n'est pas idéalisé, il y a son menton qui est proéminent, ses yeux en amande, la forme du crâne, tout ça on le retrouve sur tous ses portraits, ça correspondait sans doute à son apparence, mais il y a aussi les éléments qui montrent qu'il est le roi. Alors cette œuvre, c'est donc aussi un jalon dans l'histoire de l'art du portrait, ce roi portant la fausse barbe rituelle des pharaons, un signe du pouvoir, est aussi en même temps un homme. C'est sans doute pour ça que cette statue est aussi fascinante et allez la voir au département des Antiquités égyptiennes.